Patrick Artus, on entend beaucoup le fait que la France décline. On a envie de savoir vraiment où en est la France dans les classements, quelles sont ses forces et ses faiblesses.
Oui, alors les faiblesses de la France sont connues, hein. Il y a un nombre important de faiblesses, et donc je liste et j'illustre chacune. La faiblesse du taux d'emploi, hein, le taux d'emploi en France est autour de 68%, hein, c'est la proportion de la population de 15 à 64 ans qui a un emploi. Dans les autres pays de l'OCDE, qui ont un taux d'emploi élevé, c'est pratiquement 10 points de plus, hein. C'est entre 76 et 80% en Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, au Japon, etc. Donc il y a 10 points de déficit de taux d'emploi par rapport à ce qui serait souhaitable. Ça fait 13 ou 14% de déficit de niveau d'emploi, hein. C'est absolument colossal. Si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, on aurait 8 à 9 points de produit intérieur en plus et on aurait un équilibre budgétaire, on n'aurait plus de déficit public. Donc c'est vraiment la faiblesse très grande et elle peut être associée à l'inefficacité du système éducatif, hein, qui est bien documentée par toutes les enquêtes, surtout en ce qui concerne les matières scientifiques, hein. Il y a l'enquête TIMSS, hein, qui est TI2MS, qui nous classe dernier pour le niveau en maths et en sciences des enfants par rapport à un grand échantillon de pays. Il y a les enquêtes PIAAC de l'OCDE qui montrent que les compétences de la population active sont très faibles en France et on ne voit pas d'amélioration de ces enquêtes diverses sur les compétences. Donc le premier pôle de faiblesse, c'est le pôle taux d'emploi et compétences. Il y a vraiment, je crois que je rajoute une phrase, s'il y a une réforme à faire, c'est la réforme du système éducatif, hein. On a un système éducatif qui est vraiment très peu performant, qui aggrave les inégalités sociales entre les enfants, qui ne prépare pas les enfants aux métiers d'avenir, et ça, c'est extrêmement grave, et en particulier tout l'enseignement technique, hein, est à réformer. La deuxième faiblesse, ben, c'est le poids très faible de l'industrie, hein. L'emploi industriel, ça ne fait que 9% de l'emploi total, hein, c'est la moitié de l'Allemagne. Cette faiblesse de l'emploi industriel, effectivement, aboutit à une faiblesse de la productivité, puisque la productivité de l'industrie est 30% plus élevée que la productivité des services, hein. On a un vrai problème de désindustrialisation qui date depuis très longtemps et de la disparition de la France d'industries très importantes. Et la France, jusqu'à une période récente, s'était spécialisée dans l'industrie, dans un tout petit nombre d'industries. Il y avait le luxe, il y avait de moins en moins la pharmacie, il y avait l'automobile, mais c'est vraiment un tout. Et puis
L'aéronautique.
l'aéronautique et l'espace, hein. L'espace est en difficulté, l'aéronautique pas. Donc c'est vraiment un tout petit nombre d'industries. Pour un grand pays comme la France, c'est vraiment un nombre très insuffisant d'industries dans laquelle le pays est spécialisé. Et puis la dernière difficulté, c'est la situation des finances publiques, hein. On a un taux d'endettement public qui est à 111% du PIB. On a des déficits chroniques, mais qui ne sont pas associés à un effort d'investissement public qui sont associés au déficit des systèmes de protection sociale. Et en particulier, on dépense 4 points de PIB de plus sur les retraites, hein, que les pays comparables de l'OCDE. Donc, problème de faiblesse du taux d'emploi, associée à la faiblesse des compétences, associée à des problèmes d'efficacité du système éducatif. Un exemple, les fameux NEETS, hein, les enfants déscolarisés sans emploi, même s'il y a une petite amélioration qui est liée au développement de l'apprentissage, en France, on a encore 15% d'une tranche d'âge qui devient NEETS, hein. Ça fait une tranche d'âge. Une tranche d'âge, c'est à peu près 700 000 enfants, hein, donc ça fait 110 000, 120 000 enfants par an qui sont sans aucune capacité à avoir un emploi normal en sortant du système éducatif. Dans les autres pays, c'est 7, 8, 9%, c'est la moitié, quoi, je veux dire, hein. Donc Donc on a vraiment plein de documentation de la faible efficacité du système éducatif. Et puis le système de formation professionnelle, même si les réformes de Muriel Pénicaud l'ont amélioré, pêche encore par le sous-investissement dans les personnes de plus de 55 ans, et même si c'est un peu corrigé, le sous-investissement dans les chômeurs et le sous-investissement dans les personnes peu qualifiées. Il n'y a que 15% des Français peu qualifiés qui bénéficient d'actions de formation. Alors, si on s'arrêtait là, on serait complètement désespéré. Maintenant, il faut voir qu'il y a quelques pistes d'espoir et quelques améliorations structurelles qui suscitent l'espoir. Alors, pour la amélioration structurelle, l'industrie, dont on a dit qu'elle était beaucoup trop petite, mais pour la première fois, elle crée des emplois et a une reprise de sa production. Il y a des créations nettes d'emplois industriels depuis 3-4 ans, et qui sont associées aussi à beaucoup d'investissements d'entreprises étrangères en France. Il y a ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, sont vraiment en forte augmentation.
Et un indicateur d'attractivité.
C'est un indicateur d'attractivité. Et donc, clairement, les réformes, alors pas la réforme des retraites encore, mais les réformes fiscales, les réformes de la formation professionnelle, etc., ont un effet positif sur l'attractivité. Et on voit aussi le taux d'investissement des entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, mais en France, qui retrouve ces niveaux d'avant la crise des subprimes de 2007-2008. Alors qu'il avait beaucoup, beaucoup décliné. Donc, il y a vraiment un effort d'investissement associé à un supplément d'emploi. Et donc on est assez optimiste sur la poursuite de ce mouvement. Il y a les entreprises technologiques. Il y a 36 licornes françaises. Il y en a très, très peu il y a 4-5 ans. Donc, on a un secteur de la technologie qui devient assez mature, alors qu'il n'y a pas encore d'énormes entreprises, mais il y a plein de licornes qui pèsent plusieurs milliards d'euros de capitalisation boursière et qui ont des taux de croissance élevés. Il y a un avantage comparatif de la France, c'est qu'elle a beaucoup d'épargne. Il y a un taux d'épargne des ménages qui est supérieur à 16%. Alors malheureusement, cette épargne est très mal dirigée. Cette épargne va beaucoup sur des formes d'épargne sans risque, sur des comptes sur livret.
C'est 16%
du taux d'épargne.
Du revenu disponible,
ça. 16% du revenu disponible au quatrième trimestre de 2022, c'est le dernier point dont on dispose. C'est extrêmement élevé. Aux États-Unis, c'est 6%. Ça pourrait être un avantage comparatif de la France, mais il faudrait arriver à mieux flécher cette épargne sur les emplois du futur, sur les développements technologiques. Il y a le rapport de Philippe Tibi qui avait préconisé d'augmenter la quantité de l'épargne, par exemple, qui transite par l'assurance vie et qui investit à risque. Mais c'est un avantage comparatif. Et alors, il y a quand même deux problèmes qui se règlent tout doucement, mais qui font un handicap. Bon, je les mets dans la catégorie des pistes d'espoir, mais c'est pour l'instant un handicap. Il y a les dépenses de recherche-développement qui sont très faibles. C'est 2% du PIB. Aux États-Unis, c'est 3,5%, quoi, je dirais. Donc on a... Et puis surtout, la robotisation des entreprises. On a deux robots industriels pour 100 salariés en France. Il y en a 4 au Japon et 6 en Corée, donc on a un retard dans la robotisation qui reflète un comportement. C'est pas de l'économie. Les entreprises françaises ont des réserves de cash considérables. Les entreprises françaises auraient les moyens d'investir beaucoup en robots. C'est un problème culturel. C'est l'inquiétude devant les nouvelles technologies, le fait que beaucoup de patrons de PME, de TPE sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies, qu'ils n'osent pas. Et souvent de la pédagogie. BPI France fait des actions de pédagogie, de formation auprès de dirigeants d'entreprise, après lesquelles ils se mettent investir beaucoup plus dans des nouvelles technologies, se robotiser plus, exporter plus, nouer des contacts avec les centres de recherche universitaires. Donc il y a vraiment un insuffisant réflexe des patrons d'entreprises moyennes et petites en France pour moderniser leurs entreprises. Mais au total, on part d'une situation extrêmement dégradée sur l'éducation, sur l'emploi industriel, sur la production industrielle, sur les compétences, etc. Et quand même, on sent que la dérivée devient un peu positive, quoi, je veux dire, hein, sur l'emploi, sur l'industrie, sur les investissements, etc. Même sur l'utilisation de l'épargne, hein, sur les licornes. Enfin, il y a quand même, il y a un frémissement qui va dans la bonne direction. Alors, j'ai pas évoqué la question des déficits publics et des dettes publiques. Effectivement, ça va être aussi un problème de... ça risque de bloquer cette mécanique de modernisation, puisqu'on sait que l'État français va devoir réduire assez fortement ses déficits publics pour satisfaire les contraintes européennes. Et si vous regardez le programme d'ajustement des finances publiques qui est sur 2023-2027 qui a été déposé par le gouvernement français il y a quelques jours, la réduction la réduction du déficit primaire, c'est-à-dire du déficit hors intérêt sur la dette, est de 3 points de PIB d'ici 2027. Donc ça fait une contraction des dépenses publiques très très importante et c'est inquiétant parce que cette amélioration structurelle de l'industrie, de l'emploi industriel, était quand même pilotée par de l'argent public. Alors certes, il y a une partie d'argent européen qui n'est pas compromise. Il y a la France a reçu beaucoup d'argent du programme de Next Generation EU et d'autres programmes européens. Mais il y a des programmes français, enfin France 2030, hein, qui a plus de 50 milliards d'euros. On se dit que ça va être assez difficile de réalimenter cette machine à cofinancer les développements industriels et les développements et avec de l'argent public, parce qu'il va probablement apparaître une vraie contrainte sur la disponibilité de l'argent public.
Alors, Patrick Artus, moi je regarde la courbe de l'investissement direct étranger en entrée. Je ne trouve pas, je prends la date de 2017, pas tout à fait au hasard, que ce qui se passe après 2017 soit de manière très flagrante plus élevé que ce qui s'est passé avant.
Oui, mais depuis la reprise de 2021, on a plus de 4 points de PIB d'investissement direct. C'est les deux premiers. C'est très récent, cette amélioration. Hein. Ça date suivant sur l'emploi industriel, ça date de 2018, sur l'investissement direct à l'étranger, ça date de 2019. C'est quelques années d'amélioration. Alors, on peut considérer que c'est fragile, mais si on regarde sur les deux dernières années, il y a nettement plus d'investissements étrangers que depuis la crise des subprimes, hein, sur toute la période post-crise des subprimes. Mais si vous regardez aussi l'emploi industriel, hein, il y a depuis 2018, bah, l'emploi industriel remonte lentement. Il remonte de un peu plus de 1% par an, mais c'est bien mieux que de baisser d'un point et demi par an. Donc, enfin, c'est pas des améliorations spectaculaires, mais enfin, les signes sont devenus favorables, quoi, sur certains indicateurs un peu importants.
Eh bien, merci beaucoup, Patrick Artus, sur ce point complet sur les faiblesses, mais les raisons d'espérer de la France.